présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. C'est précieux. Je ne gâche pas ta vie en te battant avec des choses qui ne peuvent être battues parce qu'elles sont dans la destinée du monde. Ces choses mourront à la fin des temps. Mais pas avant longtemps. Et tant qu'elles seront là, la vie sera là. Qu'il y a de la vie, des choses contradictoires, c'est pour le mouvement du monde extérieur. Le bien, le mal seront toujours liés ensemble. Tu n'y peux rien. Cliff lui dit. Cliff lui dit, si tu me dis que je dois me crocher à tout ça, ça veut dire que je ne pourrai jamais être heureux, il lui dit. Non, et les autres non plus. Pourquoi? Parce que, pour montrer à l'homme qui n'est rien sur cette terre, mais qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. Et puis, tu sais, ce que les dieux ont décidé pour toi, alors l'arche, ça ne sert à rien. C'est ton destin, comme moi. lien lié au tien. Elle l'embrasse et réfléchit. Durant son séjour avec son fils, elle range l'appartement, fait des bons repas, lui demande de l'accompagner au concert, opéra, théâtre, soirée. Elle fait ça pour le distraire. Mais lui dit, je ne vais jamais dans une grande ville, je veux me distraire un peu, alors fais-le pour moi. Oui, bien sûr maman. Et il l'emmène un peu partout. Ça lui change les idées. Le dernier soir qu'ils passent ensemble, il lui dit, tu as raison, j'ai décidé de vivre et de ne plus chercher à changer le monde. Je vais continuer à vivre pour ceux que j'aime, surtout pour toi. Il l'embrasse et lui dit, merci. Et pense aussi à Didier. Et lui dit, oui, aussi à lui. Puis, sa mère est partie. Avant de partir, elle téléphone à Judith et lui dit que son fils va mieux, mais qu'il faut y aller doucement avec lui, qu'il est très jeune et fragile, qu'il a besoin d'affection. Judith est satisfaite. Cliff prévient Judith qu'il reprend son travail et veut la voir. La vie reprend pour lui. Il reprend ses visites dans les usines pour contrôler leur production. Va revoir Judith. Écrit à Didier et à sa mère. Continue à voir Judith. Malgré ses idées, parce qu'il se dit que c'est la destinée qu'il a voulu, qu'elle pense comme ça et qu'elle n'y peut rien. Si la destinée veut qu'elle soit autrement, elle le sera. Mais il sent en lui-même qu'elle est douce et bonne, comme la douceur de sa peau, de ses baisers. Lorsqu'il se plaque contre elle, il sent sa bonté, sa chaleur. Attention, Cliff, malgré ses amours, ses aventures, est resté pur. Il n'est pas allé jusqu'où il devrait aller. Parce qu'en lui-même, il est pur. Et puis, ce n'est pas son rôle d'aller trop loin. Son rôle est de l'être. À une soirée, où il est allé avec Judith, une jeune fille blonde, mince, l'air froid, habillée d'une robe moulante en paillettes grises, lui dit « Je vous ai entendu discutailler de la guerre. Mais vous restez en France, tandis que Didier et les autres se battent pour de vrai en Afrique, à votre place. » Cliff est rouge de honte et quitte la jeune fille. soldat vient lui crier et lui dit que la guerre est une santé. Se débattre pour défendre sa peau comme un tigre. Et que les ennemis ont peur de lui. Ils se sentent honteux. Oui, ils se sentent honteux. Il en parle à Julie. Elle lui dit, fou, c'est que tu restes ici. Parce que nous avons besoin de toi et que tu es plus efficace ici. Tu dois écrire à Didier pour l'exalter à se battre. Ça nous fera une bonne pub. Je lui dis, qui est mon ami? Fais-le pour lui aussi, parce qu'il deviendra un héros, et puis il sera protégé. Et Cliff exalte Didier par des lettres en lui disant de continuer à se battre. C'est ce que fait ce pauvre Didier qui se bat comme un tigre. D'ailleurs, il ne peut pas faire autrement pour sauver sa peau. La télévision CBS, qui a pris les espoirs de Didier, décide de l'interviewer sur le champ de bataille. On le montre en train de se battre et on interview Didier. Raconter la dure vie de soldat en Afrique. Dureté climatique, les maladies, les bêtes, la guerre très dure parce que les Africains savent se battre, ils sont très forts. Le reportage est vu dans le monde entier. C'est un Français qui se bat comme un lion pour sauver le monde occidental. Pour que ça serve des armes et qui se sert des armes tremblantes. Oui, sauve le monde occidental avec des armes tremblantes. Il y a au milieu du reportage des pubs. Et ces pubs sont des pubs de produits tremblants pour montrer les armes de pointe, produits pour l'alimentation, l'eau, voyage organisé. Hôtel de luxe, soins, aliments pour gens, alimentation pour chiens et chirurgie esthétique. Après-midi, il est de congé, décide d'aller voir son ami Alexis. Il retrouve le quartier qui n'a pas changé, toujours aussi sympathique et populaire, genre années 50, avec ses magasins, son square, son école municipale, ses petites entreprises dans les arrières-cours. Les enfants qui jouent dehors, le café, les épiciers. Où il y a encore des affiches genre Marnia et Banania, chocolat pupier. Ça sent bon la vie de quartier, chose qui a disparu depuis longtemps. Il y a même un peu plus loin, dans une autre rue, un petit cinéma qui n'ouvre que le vendredi, samedi et dimanche. Donc, Cliff retrouve tout ça et est heureux de retrouver tout ça parce que c'est sans la vie simple mais honnête, parce que malgré le malheur, les guerres, les émeutes, on sent un bonheur heureux et simple. Entre dans l'allée des parents d'Alexis. Elle n'a pas changé. Elle non plus. Elle a toujours la même odeur. Odeur de vieux, de poubelle et de poussière humide. Monte à l'étage. Hésite, parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Il se peut qu'il ait oublié. Sonne à la porte. La porte s'ouvre. Apparaît Alexis, toujours le même. Cliff ? Oui, c'est moi. Je peux entrer ? Oui, bien sûr. Il le fait entrer. Ferme la porte. Alexis lui dit : ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir. Que deviens-tu ? Je lui dis : j'ai beaucoup de choses et je dois avouer des choses pas très propres. J'ai eu beaucoup de travail et c'est pour ça que je ne suis pas venu. Pardonne-moi, Alexis lui dit. Mais tu es pardonné, viens. Il le mène au salon. La porte de la cuisine est ouverte. Et apparaît le père d'Alexis. Toujours le même, un maillot de corps. Tricoté blanc, il a l'air fatigué. Alexis lui dit, c'est Cliff. Le père lui dit, je le sais, je le reconnais. Bonjour Cliff, heureux de te revoir. Il lui serre la main et lui demande, t'es venu pour la pêche? Cliff lui dit, si vous voulez, j'ai eu tellement de choses à faire que je n'ai pas pu venir plus tôt. J'ai eu peur, c'est que vous m'ayez oublié. Le père lui dit, on n'oublie jamais les amis, tu sais. Tu seras toujours le bienvenu chez nous. Alexis lui dit, t'as pas de souci à te faire. Tu viens quand tu veux. On te recevra toujours. Cliff se sent aimé. Il leur dit, merci. Allez, allons au salon. Discutera mieux. Asseyons-nous. Cliff leur parle de ce qu'il a fait et de son aventure à Lyon. Ça les a étonnés. Et il dit, c'est comme une aventure de bande dessinée. Il lui dit, il y a même eu une bande dessinée qui présente la même chose. Je la montrerai. Alexis lui parle de leurs ennuis. Ma mère est en prison et mon père au chômage. La vie est très dure. Et sans la pensée, serait à la rue. Elle lui dit, oui, et c'est très dur, moi qui ai toujours travaillé, et depuis l'âge de 14 ans, j'ai retrouvé son travail.
ou on me dit que je suis trop vieux. J'ai peur qu'il me transforme en porté pour chien. J'ai le sort des chômeurs. Je me dis souvent que je suis un chômeur. Et j'ai peur que les hommes en noir viennent me chercher pour me mettre en bouillie. Je lui dis, je vous comprends, il faudrait tout pour vous empêcher ça. Et il lui dit, tu pouvais y trouver du travail. Il lui dit, je tâchais de voir et en parler. Et ils ont passé la journée ensemble. Puis les amener au restaurant avec Mathieu, parce qu'il est allé chercher Mathieu. Et il leur a payé le cinéma. Ainsi qu'il est reparti, en leur promettant de revenir bientôt. Lendemain soir, il parle à Julie, père d'Alexis.
Pas un petit travail pour lui, et lui dit, je connais son cas. Pour le moment, je ne peux rien faire. Tu sais que sa femme est accusée de meurtre et en prison. La Franc-Blanc n'empêche que les gens qui ont casé judiciaire vierge. Pour la famille aussi. C'est par sécurité, à cause de l'espionnage. Nous faisons de la recherche et nous fabriquons des produits de pointe dans tous les domaines. C'est pour éviter l'espionnage industriel. Et puis, nous sommes en première ligne dans cette guerre. Il lui dit, mais Monsieur Prudent est un honnête homme. Elle lui dit, le règlement, c'est le règlement. Je n'y peux rien. Et de quand que sa mère est en prison, après, nous verrons, mais pas avant. Il faut qu'elle sorte de prison et qu'elle soit considérée comme innocente. Cliff est triste pour ses amis et décide de les aider financièrement en cachette de Judith.
Les jours passent. Cliff se sent seul. Personne n'a vraiment aimé à Paris. Plus de Brigitte, Didier est loin. Il a bien entendu Judith, mais elle a tellement d'autres personnes qu'elle aime. Les jours passent. Se dégrade. Toujours beaucoup d'émeutes, chômage, SDF qui sont pourchassés pour les amener en Afrique pour en faire de la chair à canon. Toutes les nuits, les hommes en noir font des tueries dans les quartiers populaires pour les ramasser ou des ramassages pour l'Afrique. À Lyon, c'est pire qu'à Paris ou ailleurs.
terme, toujours aussi furieux et fou à cause de la mort de sa fille, crée des émeutes monstres. L'on tue, l'on brûle tous les jours. Il veut se venger et trouver une autre femme. Lyon devient un véritable Stalingrad, mais de l'intérieur, parce que les combattants sont à l'intérieur. C'est terrible. Plus rien ne marche. Est mort, plus d'électricité, ils ont tout fait sauter. Les centrales électriques, téléphoniques et l'eau potable. Tout est en ruine. La population ressemble à des réfugiés. Ils vivent où ils peuvent dans des bidonvilles. Sur les places, les rues piétonnes, les quais. Ils squattent aussi. C'est la fête population bigarrée de toute race, de toute religion. Mais sont tous en loc, mangent ce qu'ils trouvent, rats, chiens, chats, oiseaux, merde. Il y en a même qui deviennent cannibales. Plus de loi, plus de pitié, ni de bonté. Là, chacun pour soi, le mal est roi. Lyon est devenue la capitale du mal, Dior. Plus rien n'a de sacré, surtout pas le corps, quel que soit l'âge, le sexe et le lien familial. On s'enivre aussi beaucoup de n'importe quoi, d'alcool, d'écorce, d'arbres, de produits d'entretien, de Beaujolais, on mélange tout avec n'importe quoi. Les gens veulent oublier, oublier par l'alcool ou autre chose. La drogue aussi circule, drogue de toutes sortes et surtout drogue de rien du tout.
Populaire, d'une rue populaire, un café qui ressemble à un café sombre des années 50. Un soir, la salle est petite, sombre, elle sent mauvais, le marnier à la cigarette. Il y a quelques clients, des vieux qui sirotent. Au comptoir, le bistroquet, un grand chauve, il porte un t-shirt gris sale, cigarette au bec. Il essaye d'essuyer des verres avec un torchon qui a fait la guerre de 40 et n'a jamais été lavé. Au comptoir, une vieille femme, petite grosse, cheveux blancs en broussaille et sale. Elle porte un vieux manteau gris taché. Elle a un visage de chouette mal réveillé. Elle sirote son marnia avec plaisir. C'est sa gourmandise de la journée, sa joie de la journée. Et près d'elle, un homme grand, maigre, de longs cheveux noirs, gras et sale, il est tout ridé, porte une gabardine dégueulasse, grise. Le pantalon est attaché en guise de ceinture par une corde. Sa chemise est tellement sale qu'elle est devenue jaune. Lui aussi sirote son marnier, la spécialité du cafetier.
Écoute, mon vieux. Moi, si je voulais, je serais riche. Parce que c'est un secret terrible.
Il le regarde avec des yeux globuleux et lui dit ah. Et lui fait ouais. Il lui fait eh ben alors. Elle lui dit
moi, écoute-moi bien. Il y a de ça quelque temps. Je faisais le ménage chez une Rupin. Le ménage en même temps. J'en profitais pour voir un peu les poches et les fauches chez elle. Elle ne remarquait rien parce qu'elle avait tellement de choses. Donc, un jour, je suis dans son appartement et prête à m'en aller. Et là, j'entends un drôle de bruit.
Oh, regarde! Et je vois qu'une femme vient de tuer une jeune fille d'un coup de revolver. La femme s'en va. Moi, je m'occupe pas des affaires des autres. Je descends en vitesse, contourne le cadavre. Là, il y a à terre, près du revolver, plus loin, une carte de visite. Sans doute que la femme, en prenant son arme dans sa poche, a fait tomber sa carte de visite. Je la ramasse et la mets dans ma poche. Je me dis, on ne sait jamais, ça peut servir un jour. Mais qu'est-ce que la carte? C'est une carte au nom de Beaulieu. Le biscotet écoute d'une oreille. Je me demande, eh, où ça s'est passé?
Dans un immeuble, boulevard Saint-Germain, Paris. Tu sais, le meurtre dont on a parlé dans les journaux. Eh bien, j'y ai assisté. Très intéressant. Et t'en as parlé. Elle lui dit, j'attends le bon moment.
Tu as bien fait, ma vieille. Termine son marnier, elle lui dit.
Tu me donnes ton adresse? On ne sait jamais si on veut fricoter ensemble. Je sais, on n'est pas de la première jeunesse, mais ça marche encore un peu. Et puis, à nos âges, on peut bien se donner un peu de plaisir.
La vieille lui dit.
Stick-tick, mon vieux. Bien en chair, et moi, il lui dit, je suis sûr, tu es bien. Ton attirail est bon. Et si on faisait ça, ce soir, dans une allée, vite fait.
Toi qui dit, j'ai une chambre.
Il me dit, non, pas ce soir, je me sens pas en train. Ce soir, c'est le marnia.
Il serait qu'elle lui dit, mon marnia est de bonne qualité.
Et tu dis, je dis pas ça, mais il est peut-être trop bon. J'ai sans doute trop bu. Ça passe comme du bon vin.
Jusqu'auquel on regarde un mauvais oeil. L'homme demande à la vieille,
alors tu me donnes ton adresse?
La vieille lui dit,
oui,
rue, des capucines, des meubles qui restent debout au deuxième étage. Je suis Perrault, et Perrault, de père en fille et en fils, un de mes ancêtres qui habitait au-dessus de l'auteur et ne faisait que de l'emmerder en faisant du bruit, est mort. Il a fini dans une maison de fous, mais il a écrit ses mémoires. Bon, eh ben, il faut que je te laisse, ma cocotte.
Elle demande, tu ne m'embrasses pas?
Non, ça me donnerait du regret de ne pas pouvoir ce soir. Il se recueille, il faut payer. Elle me dit, ah oui, bien sûr.
Dans sa carte spéciale SDF,
Mistroquet fait la grimace. Et la carte sur l'écran. Pousse.
L'autre met son pouce dégueulasse sur l'écran.
Le Mistroquet lui donne le prix.
Tant que ça.
L'autre lui dit,
ça.
Mistroquet lui dit,
c'est du Marnia, pas du Beaujolais. Va à Lyon, si tu veux, mon cher.
Et il lui rend sa carte. Il quitte le café.
Kafka dit à la femme,
drôle de type,
et tu vas t'astiquer avec lui.
Et lui, qu'est-ce que tu veux? J'ai de l'appétit. Que veux-tu?
Pendant ce temps, l'homme entre chez lui. Dans un immeuble en ruine, il a aménagé une pièce, l'immeuble est vide, un matelas à terre, une table, une chaise. Vite, il quitte ses vêtements.
Va dans la pièce à côté, qui est une sorte d'eau. Il a réussi à se mettre l'eau en trafiquant avec le compteur. Après s'être lavé, il se range. Ensuite, des vêtements propres, s'habille d'un costume propre, prend sa carte et sort de l'immeuble. C'est la nuit. Dehors, il marche d'un bon pas dans les rues désertes. Après une bonne marche, il arrive gare de Lyon. Thank you.
C'est la nuit. Qu'il y a quelques trains qui partent. Elle est remplie de SDF qui dorment dans la gare, de voleurs à la tire et aussi des putes. Bien entendu, quelques voyageurs par-ci, par-là. Il faut bien faire gare tout de même. Vite, il va prendre un billet. Le disquier. Et à moitié endormi, un petit homme chauve, maigre, à blouse grise, lui demande « C'est pourquoi ?» Il lui dit « Le train. » « Ah, oui. Et pour aller où ?»« À Lyon. » L'autre regarde bien et lui dit « Vous êtes fou ? Il vaut mieux aller en Afrique ou ailleurs. » « Oui, mais moi j'aime le risque. » Je vais à Lyon. Bon, et c'est pour quand? De suite. Vous êtes pressé de mourir? Oui, si vous voulez. Il lui dit, remarquez, il paraît que c'est la mort. Lorsque l'on veut en finir avec la vie, on va à Lyon. Avec ce moyen, on ne risque pas de se rater. C'est plus efficace que le revolver et le poison. Marseille. Il regarde sur son ordinateur. Il y a un départ. Dans une demi-heure. Ça va? Oui, ça va. Ça fait combien? C'est bon. Il tend sa carte. L'autre la met sur l'écran et demande « Pouce ». Il le met. Il rend sa carte et dit « Quai A1 Sud ». Merci. Et il va. Sur le quai, pour attendre le train, peu de monde, mais beaucoup de clodos qui demandent des choses à manger. Enfin, le train arrive. C'est un vieux taco des années 30, à vapeur. Pour Lyon, on ne prend que de vieux trucs de porc qui se fassent attaquer. Il entre dans son wagon. Et son compartiment qui est vide. Ça sent l'humidité, la cigarette. Il y a des déchets à terre, du papier de bonbons, de gâteaux BM, des canettes de bière, coca, des capotes. Les banquettes sont tachées et même déchirées. Il y a des graffitis partout. Les vitres sont fendues. On ne peut même pas les baisser. Il s'assoit dans un coin propre, enfin moins sale que les autres, et attend. Enfin, le train s'en va doucement. Il quitte la gare comme un vieux cheval fatigué, essoufflé. Il va perdre l'âme. On a envie de dire à la locomotive, pauvre bête, c'est un scandale de la faire travailler, cette bête. Elle a besoin de repos, elle l'a bien mérité. L'on quitte Paris. Et le voyage continue. Il est long, pénible. L'homme essaye de dormir, mais le gémissement, l'étouffement de la locomotive l'empêche de dormir. Il se demande si elle ne va pas mourir d'épuisement en pleine campagne. Il aurait dû aussi s'y apporter à manger et à boire, parce que le trajet dure 10 heures. aux approches de Lyon, c'est plus difficile à cause des attentats qui font dérailler les trains. Et les rails aussi sautent. Donc on est obligé de faire un long détour. Enfin, ils arrivent à Perrache. Ce qu'il en reste de cette gare.
Des ruines
de partout. Des trains qui ont déraillé. Des tas de ferrailles. Le hall de la gare n'a plus le toit. Il ne reste que quelques restes de murs. Pour aller au hall du quai, il faut prendre des échelles. Parce que tout a été démoli. Sort de la gare. Ruine sur ruine. Il va à pied à son lieu. Parce qu'il n'y a plus de transport. La chaussée est défoncée à cause des explosions de gaz et de bombes, etc. Il suit un périple de décombres, des gens qui semblent être des zombies. De toute religion, en loques. Il évite de les regarder. De toutes les religions et de toute nationalité. Après un long périple, voir l'élu, etc., il arrive sur les pentes de la Croix-Rousse.
Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Pierre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.